Voilà, nous reprenons après un long temps d'interruption, un peu comme des élèves qui reprennent après le temps des grandes vacances. Il faut relancer un peu la mémoire, la machine. Alors, vous vous souvenez, je vous ai mis un petit feuillet pour vous rappeler comment organiser votre dossier, qui suit et qui nous rappelle ce qu'on a fait. On a d'abord eu une heure et demie au moins de leçons d'introduction générale sur l'ensemble du psautier, le genre psalmique, la recherche d'une harmonie entre la forme et le fond dans les psaumes, etc. Ça, c'était une dizaine de pages. Et puis, nous avons abordé les premiers psaumes du psautier, le psaume 1 et le psaume 2. Vous vous souvenez, le psaume 1 qui commence par une béatitude, « Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants », et le psaume 2 qui se termine, lui, par une béatitude. Donc, c'était un encadrement. « Heureux qui trouve en lui son refuge ». Donc ça, c'était les psaumes 1 et 2. Le psaume 1, vous vous souvenez, c'est le psaume qu'on appelle parfois des deux voix, au sens où on distingue l'homme qui se plaît dans la loi du Seigneur, et on lui appose une belle image, il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau, etc. Il nous déploie l'image à la différence de celui qui est opposé à cet homme qui suit la loi du Seigneur, à savoir l'impie. L'impie qui est comme la balle emportée par le vent. Là, une image brève, un peu sèche pour le signifier. Et d'ailleurs, la fin du psaume annonce un jugement entre précisément ceux qui se plaisent dans la loi du Seigneur et les impies. Alors c'était sur le psaume, sur le registre affirmatif, simplement « Heureux est l'homme, il est comme un arbre, etc. Le Seigneur connaît le chemin des justes. » Mais on sentait bien que derrière les affirmations, il y avait comme une invitation à faire le choix du bon chemin, de la bonne voie, pour participer à la vie que le Seigneur veut donner, et qui est signifié abondamment par l'image de l'arbre qui donne son fruit en son temps et dont jamais le feuillage ne meurt. Donc, un psaume qui déjà invite à un choix, principalement, pour opter pour le chemin du Seigneur, le chemin de la vie, plutôt que d'encourir le risque du chemin de la mort, de la perte. Et puis le psaume 2 était un psaume qui énonçait aussi une tension entre deux perspectives, mais cette fois-ci à une échelle plutôt, je dirais, collective. Il y a d'une part les nations, les peuples, les rois de la terre qui murmurent, voire se liguent contre le Seigneur et son Messie. Donc il y a d'un côté le Seigneur et son Messie, avec ce verset important, « Je proclame le décret du Seigneur, il m'a dit, tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré, hein, qui sera appliqué au Seigneur Jésus. » Donc d'un côté le Seigneur et son Messie, et d'autre part les nations, les peuples, les rois, la terre, qui sont invités à accueillir ce Messie. D'ailleurs, heureux qui trouve en lui son refuge, à la fin, heureux qui consent cet accueil. Mais pour les autres, un avertissement sévère qui annonce comment le Messie, le roi de Dieu, aura raison des rébellions contre Dieu et son Messie. Ça, c'était les deux premiers psaumes du psautier, qui invite à opter pour Dieu, sa loi, et opter pour la reconnaissance de ce Messie, de ce roi qu'il nous donne. Et puis, nous avions vu le psaume 8. Au Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom partout l'univers. Il célèbre le Seigneur Dieu à ses extrêmes, hein, puisque c'est le refrain en quelque sorte qui encadre le psaume, au Seigneur notre Dieu qu'il est grand ton nom par toute la terre, ou tout l'univers. Et on comprend que le Seigneur est célébré pour la grandeur de sa création, et à l'intérieur de cette création, spécialement l'émerveillement pour l'homme. Qu'est-ce que l'homme à l'intérieur de ce vaste univers? Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme, que tu en prennes souci? Et pourtant, tu l'as voulu un peu moindre qu'un dieu, le couronnement de gloire et d'honneur et tu lui soumets toutes les réalités de la création. Alors, un psaume de louange à Dieu, mais qui, en son cœur, manifeste la beauté de la destinée de l'homme créé à l'image de Dieu et qui va participer, en quelque sorte, à l'œuvre de régence que Dieu exerce sur la création. Et alors, j'avais un peu insisté sur le fait que, déjà dans le psaume 2, le verset 7, « Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré », c'est un verset qui a connu un bel écho dans le Nouveau Testament, à propos de Jésus, que ce soit dans la scène du baptême, de la transfiguration, etc. Mais le psaume 8 aussi a fait l'objet de belles applications dans le Nouveau Testament, puisque ce qui est dit de l'homme, abaissé un petit peu au-dessus par rapport aux anges, mais couronné de gloire et d'honneur, l'auteur de la lettre aux Hébreux, par exemple, a compris comme pouvant s'appliquer, se relire, comme s'appliquant au Christ, abaissé dans sa passion, mais dans sa résurrection, couronné de gloire et d'honneur. Et ce psaume, alors, a pu être, alors qu'au départ, il célèbre la beauté, la vocation de l'homme tel que créé, bien, a été ressaisi pour célébrer le couronnement de gloire et d'honneur du Christ en sa résurrection au cœur de l'histoire, et aussi par saint Paul, plus loin, célébrer déjà la royauté plénière de Dieu au terme, non plus seulement au cœur de l'histoire, mais au terme de l'histoire à l'eschaton. Voilà les trois psaumes que nous avons vus. Donc une introduction générale, puis le début du psautier, les psaumes 1 et 2, et ce psaume 8 que l'on prie dans l'office du samedi matin certaines semaines, qui est très, très beau et qui a donné lieu à des refrains bien connus, par exemple de Gélino. Hein. « Ô Seigneur, notre Dieu qui est grand. » Voilà, c'est tiré directement du refrain de ce psaume. Alors, je vous invite à avoir sous les yeux la page 20. Vous l'avez encore, que vous avez donné la fois passée. Regardez un petit peu si vous l'avez. C'est la dernière page que je vous avais donnée. Qui ne l'aurait pas, je peux lui donner un exemplaire, oui, parce que la parcourir. J'y avais déjà fait allusion un peu rapidement, on va la reprendre un peu plus en détail, sur le vocabulaire de la louange et de la bénédiction. En effet, dans les psaumes que je vous propose de parcourir aujourd'hui, on va rencontrer cette dimension de la louange, qui convient à ce temps pascal. Il va nous aider à reprendre dans l'esprit de louange ce cours sur les psaumes. Ça sera des psaumes de la fin du psautier, qui se termine par des psaumes en Hallel, Allelu, loué, Alléluia, loué, Yahvé, loué Dieu. Alors d'abord, un petit aperçu sur le vocabulaire de la louange, qui intervient, ceux qui s'intéresseraient à l'hébreu, je mets parfois des notations en parenthèse sur les racines, il intervient plus de 90 fois dans les psaumes et surtout dans la dernière partie du livre des psaumes, notamment dans les ensembles qu'on qualifie de Hallel, les psaumes 104, 106, 113, 118, un ensemble qu'on appelle parfois le petit Hallel, le grand Hallel, les psaumes 135, 136, et le Hallel final. Donc ce verbe halal qui a donné, qui veut dire louer, qui a donné Allelu, ça veut dire louer à l'impératif, plus Yah, le diminutif de Yahvé, donc littéralement louer Dieu. Alléluia. Donc l'acclamation Alléluia est directement de cette racine. Elle veut dire littéralement louer Dieu. Alors il intervient le plus souvent à l'impératif pour inviter à la louange la communauté, voire la création. D'autres exemples que je donne au passage, vous qui craignez le Seigneur, louez-le. Alléluia. Louez-le. Louez le Seigneur, tous les peuples, que tout ce qui respire loue le Seigneur, et bien sûr tous les Alléluia. Deux fois, on le trouve à l'impératif singulier. Le plus souvent, c'est à l'impératif pluriel, pour inviter la multitude des autres à la louange. Mais parfois, il y a comme une auto-invitation, une invitation à soi-même. Loue le Seigneur, mon âme. Loue ton Dieu au Sion, au singulier. Parfois, c'est énoncé en je, au milieu de la foule, je te louerai. Je louerai ton nom à jamais. Ça, c'est pour le verbe louer. Pour le substantif, tehila, de la même racine, il intervient aussi une trentaine de fois, chanter sa louange dans l'assemblée des fidèles. Et il y a un psaume que nous allons voir à l'instant, le psaume 145, dont le titre est donné en termes précisément de louange, de tehila. Tehillah le David, ça veut dire louange de David. Et au pluriel, Tehillim, ce qui a donné l'appellation parfois pour le psautier, l'appellation Sefer, qui veut dire le livre, Sefer Tehillim, livre des louanges. Donc, cette appellation générale pour le psautier prend bien acte de cette dimension très forte de louange. Et dans le grec, souvent, cette racine est rendue dans le Nouveau Testament par Aineo. Ça, c'est un premier verbe important, une première racine. Louer, louange. Une deuxième racine, c'est la racine du vocabulaire de rendre grâce. Rendre grâce, dans la transposition en grec, c'est le terme l'eucharistie, l'eucharistène. Rendre grâce, en hébreu, c'est Yada, ça a un sens proche, et de même, il y a un substantif qui lui est lié, l'action de grâce. De même, souvent, ça fait l'objet d'une invitation à l'impératif, chantez le Seigneur, célébrez-le, au sens de rendez-lui grâce, et souvent, on donne le motif, la raison de l'action de grâce. Nous célébrons ton nom, nous rendons grâce pour ton nom, car il est proche. Je te rends grâce car tu m'as répondu. Et l'équivalent grec, le charistène, intervient souvent dans les lettres de Paul. Vous vous souvenez qu'après l'adresse de sa lettre, souvent il élève une action de grâce au Seigneur. Dans la préface quatrième, on voit que ce vocabulaire de la louange, le premier terme qu'on a considéré, et de l'action de grâce intervient. Tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant, c'est toi qui nous inspire de te rendre grâce. Une troisième racine importante dans cette perspective, c'est le verbe bénir. Dans le grec, là, c'est eulogène, dire du bien, littéralement. Comme bénir, bene dicere, ça veut dire dicere, dire, bene, dire du bien, dire du bien, bénir. C'est le verbe barak dans l'hébreu. La baraka, c'est la bénédiction de Dieu. L'homme dit, béni soit le Seigneur, Baruch, en réponse de gratitude envers celui qu'il reconnaît, qu'il confesse à l'origine des dons reçus. C'est-à-dire, le Seigneur nous bénit et en retour, nous le bénissons. Il faut nous remonter en quelque sorte cette bénédiction en termes de reconnaissance vers lui. On exprime aussi souvent le motif de la bénédiction, qui est souvent un motif général, ou parfois pour des circonstances plus particulières. Béni soit le Seigneur, car il a écouté ma voix suppliante. C'est dans une circonstance précise. Béni soit Dieu chaque jour, car Dieu nous apporte la victoire. Ainsi, l'homme bénit Dieu pour le secours reçu dans la détresse, l'exaucement des prières, une victoire remportée, un miracle, ses largesses, sa protection, etc. Il y a beaucoup de motifs, de raisons pour lesquelles on est amené à bénir Dieu. Et le psalmiste invite souvent à partager et à amplifier la bénédiction. Il invite les autres à s'associer à sa bénédiction. Peuple, bénissez le Seigneur. Bénissez le Seigneur, vous tous ses anges. Bénissez le Seigneur, vous toutes ses armées. C'est le psaume 103. Dans le Nouveau Testament, c'est le verbe ben, c'est le verbe qu'on rencontre par exemple au début du Benedictus du Lunaire de Zacharie, hein, lorsque son fils Jean est né. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël. Et ça commence par le verbe de cette racine. Dans son commentaire, dans le psaume 67, saint Augustin résume le double mouvement de la bénédiction. Lorsque Dieu nous bénit, nous croissons devant lui. Et lorsque nous bénissons en retour le Seigneur, nous croissons encore. L'un et l'autre en profite. Le Seigneur n'est pas agrandi par nos bénédictions, comme le dit la préface, hein, nos chants n'ajouteraient à ce que tu es, mais il nous rapproche de toi. Saint Augustin dit, le Seigneur n'est pas agrandi par nos bénédictions. La bénédiction vient d'abord en nous, et ensuite, à notre tour, nous bénissons. Un mouvement de reconnaissance. Alors, voilà donc trois racines importantes. La racine de la louange, de l'action de grâce et de la bénédiction. On va rencontrer ce vocabulaire dans les psaumes qu'on va parcourir. Ces dimensions occupent parfois tout le psaume. Par exemple, on chante Dieu, pour savoir, c'est un hymne, soit pour la création, soit pour l'histoire du salut, soit pour les deux, on rencontrera. Mais donc parfois, la louange, la bénédiction occupe toute la perspective du psaume. Mais parfois, elle intervient à un moment donné. Le psaume commence d'abord par une supplication, une confession des péchés, et puis à un moment donné, quand la supplication, on a conscience qu'elle est exaucée, quand le péché, on a conscience qu'il est pardonné, eh bien ça se transforme en mouvement de louange, de bénédiction, de reconnaissance. Pour la supplication exaucée, pour le pardon reçu, par exemple. La louange est le fait, donc ici j'ajoute quelques notes, les trois premiers paragraphes c'était pour analyser un peu le vocabulaire. Maintenant, j'ai quelques notes générales sur ce registre. La louange est le fait du peuple élu avant tout. Mais il n'hésite pas à convier aussi les autres nations à s'y associer, à s'universaliser. Tous les peuples et même la nature, les monstres marins, les plantes, les montagnes, bondissiers de joie, associez-vous à cette louange. Et à entrevoir son plein épanouissement eschatologique, ça veut dire l'accomplissement des temps. La louange, louer, c'est le propre des vivants. Non, les morts ne louent point le Seigneur, dit le psaume 115. La louange confesse la grandeur de Dieu, et le Nouveau Testament continue à honorer cette dimension centrale. Par exemple, en Matthieu 11, c'est le verset où Jésus exulte en disant « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir révélé cela, non pas aux sages et aux savants, mais aux petits. » Ou à l'entrée à Jérusalem. Hein? Les foules crient Alléluia pour le Seigneur qui entre. Et Jésus dit, même si les pierres se taisent, ils persévéreront dans cette louange. La joie pascale dans les actes, on dit souvent dans les passages des actes qu'on lit ces temps-ci, que la louange est une dimension de la prière des apôtres en ce temps-là, et des passages uniques de Paul. Alors la louange est close souvent dans le chant, la musique, la danse. C'est sûr que les psaumes de louange, de bénédiction, se prêtent spécialement à être chantés de manière allègre, où s'exprime l'âme saisie et épanouie. Le Nouveau Testament connaît les termes de aineo, aido, hymneo, vous reconnaissez hymne, et psallo, vous reconnaissez la racine de psaume. Louange, action de grâce et bénédiction, donc les trois vocables qu'on avait notés, sont proches. Elles glorifient Dieu en confessant ses grandeurs. Elles peuvent susciter des manifestations extérieures de joie fort semblables, surtout dans le culte. Cependant, il y a quand même des nuances entre eux. Paul, par exemple, utilise la bénédiction pour dire « béni soit Dieu » pour faire monter la bénédiction vers Dieu. Et il utilise l'action de grâce pour rendre grâce pour un motif particulier de ce qu'il voit de beau dans la communauté à laquelle s'adresse. « Je rends grâce à Dieu pour votre courage, votre persévérance, etc. » Mais, par contre, il dira de manière générale « béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. » Donc Paul distingue un peu les vocables, la bénédiction et l'action de grâce en tout cas. Mais dans la Bible, en général, c'est fort proche, mais il y a quand même déjà des nuances. Xavier Léon Dufour, hein, qui est l'auteur, je vous rappelle, du VTB, le vocabulaire de théologie biblique, une branche de référence toujours intéressant, dit ceci. Dans la mesure où les textes et le vocabulaire invitent à une distinction, on peut dire que la louange pense plus à la personne de Dieu qu'à ses dons. Bien sûr, on remercie Dieu, on le bénit pour ses bienfaits, mais on le loue pour ce qu'il est tel qu'en lui-même, sa grandeur, indépendamment, si je puis dire, de ce qu'il va nous donner. Déjà, tel qu'en lui-même, Dieu est grand, Dieu est admirable et mérite d'être loué. Elle est donc plus théocentrique, centrée sur Dieu, plus perdue en Dieu, plus proche de l'adoration sur la voie de l'extase. Lorsque vous faites adoration devant le Saint-Sacrement, vous pouvez louer Dieu pour le remercier, pour un bienfait reçu, etc. Mais vous pouvez aussi entrer dans cette dimension de la louange un peu pure et gratuite. Tu es là, et je t'adore en ta beauté de ressusciter, par exemple, pour le Christ. Les hymnes de louange sont généralement détachés d'un contexte précis et chantent Dieu parce qu'il est Dieu. C'est la manière, dans les vidéos du four, de souligner cet aspect de la louange gratuite pour Dieu tel qu'en lui. Bien sûr, nous avons par ailleurs bien des motifs, et les psaumes le font aussi, de le louer à telle ou telle occasion pour un bienfait reçu. La louange s'associe fortement au culte, donc elle est très expressive, et donc des occasions liturgiques festives, avec des expressions visuelles, sonore, souvenez-vous de David dansant devant l'arche, d'un coup, voilà, c'est effectivement en expression corporelle, si je puis dire, sonore, puisque les psaumes sont volontiers accompagnés d'instruments olfactifs, l'encens qui monte vers Dieu, le sacrifice, corporel, les palmes, les processions, les génuflexions, les sacrifices de louange. Donc, la louange est nourricière aussi du culte dans sa dimension très expressive. Concernant la louange dans le culte chrétien, on voit notamment le passage des Actes, des Épîtres, l'Apocalypse, hein, où on a des scènes de louange célestes. Voilà un petit tour d'horizon sur le vocabulaire de la louange. Alors je vous invite maintenant à prendre, nous allons aborder des psaumes de louange, précisément vers la fin du psautier. Donc nous sautons au dernier psaume, 5-6 psaumes du psautier. Bien sûr, plus tard, on reprendra des psaumes du corps du psautier, si je puis dire. Le psaume 145, je vous invite à voir à la fois la page 21 sur le regard et aussi le texte du psaume. Sur une page, dans les feuilles que je vous ai données. Vous voyez, 145, 144 entre parenthèses, vous souvenez que suite à la division de certains psaumes en deux psaumes, parfois un décalage dans les numérotations. Le 145 est la numérotation de la Bible hébraïque. Si vous l'avez sous les yeux, je le lis d'abord simplement et dans la traduction de la page complète. Après, à la page suivante, je vous ai mis en tableau une traduction plus littérale et plus technique. Mais prenons-le d'abord dans sa forme la plus accessible. Je t'exalterai, mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Chaque jour, je te bénirai, je louerai ton nom toujours et à jamais. Il est grand, le Seigneur, hautement loué. À sa grandeur, il n'y a pas de limite. D'âge en âge, on vantera tes œuvres, on proclamera tes exploits. Je redirai le récit de tes merveilles, ton éclat, ta gloire et ta splendeur. On dira ta force redoutable. Je raconterai ta grandeur. On rappellera tes immenses bontés. Tous acclameront ta justice. Là, il y a une ouverture, une extension. Jusqu'ici, c'était je t'exalterai, je bénirai, je te bénirai, je redirai, je raconterai. Tous acclameront ta justice. Puis on continue en détaillant les motifs de la louange et on commence à nommer le Seigneur. Le Seigneur, donc c'est la manière de rendre le tétragramme. Les quatre lettres, il y avait. On ne prononce pas. Le Seigneur est tendresse et pitié. La colère est pleine d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce, que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Annonçant aux hommes tes exploits, la gloire et l'éclat de ton règne. Ton règne, un règne éternel, ton empire pour les âges des âges. Vous voyez l'insistance sur le règne de Dieu ici. Le Seigneur est vrai en tout ce qu'il dit, fidèle en tout ce qu'il fait. Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, il redresse tous les accablés. Les yeux sur toi, tous ils espèrent, tu leur donnes la nourriture au temps voulu. Tu ouvres ta main, tu rassasies avec bonté tout ce qui vit. Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. Assez proche du verset 13b, là, le Seigneur est vrai en tout ce qu'il dit, fidèle en tout ce qu'il fait. Verset 17, on a comme un écho. Il est proche de ceux qu'il invoque, de tous ceux qu'il invoque en vérité. Il répond au désir de ceux qui le craignent, il écoute leurs cris, il les sauve. Le Seigneur gardera tous ceux qu'il aime, mais il détruira tous les impies. Que ma bouche proclame les louanges du Seigneur, son nom très saint, que toute chair le bénisse toujours et à jamais. De nouveau une extension, comme tous acclameront ta justice, toute chair, etc. Alors vous sentez bien que c'est un « je » qui loue, ou bien tantôt ce qu'on rend par un « on ». « On dira ta force », etc. « On dira ton règne ». Bon. Et tantôt on s'adresse au Seigneur, « tu ». Chaque jour, je te bénirai, je t'exalterai. Tantôt, on parle de lui, en troisième personne, lui, il. Le Seigneur est en dressé pitié. Il y a comme une alternance, par exemple, je peux prendre le verset 2. Chaque jour, je te bénirai, je louerai ton nom, toujours et à jamais. Et puis, on passe au il. Il est grand, le Seigneur, hautement loué. À sa grandeur, il n'est pas de limite. C'est comme si on avait le je du psalmiste ou le je de chaque fidèle qui participe et qui peut dire « Je te bénirai, je te louerai » et puis tous ensemble, ils disent « Il est grand, le Seigneur, ils élargissent un peu la vie. » Voilà, c'est une première lecture. Alors, si vous regardez le texte hébraïque à gauche, même si vous ne savez pas lire l'hébreu, vous voyez le numéro du psaume. Il y a deux petits mots à côté du chiffre 145. Tehila le David, ça veut dire louange de David. Et puis, chaque ligne est précédée d'une petite lettre entre parenthèses, une lettre hébraïque. Eh bien, c'est chaque fois une lettre de l'alphabet, parce que c'est un psaume alphabétique. C'est-à-dire, le premier verset commence par Aleph, qui est la première lettre de l'alphabet, le second par Bet, Gimel, Dalet, etc. Donc, il y a quand même une recherche technique, formelle, assez raffinée, de faire commencer les versets respectivement par les lettres successives de l'alphabet. Je prends maintenant la page, je vais suivre le commentaire selon que je les résumer sur la page 21. Le psaume 145 introduit le hallel final. Je vous ai dit, il y a un petit hallel, il y a un grand hallel, et il y a le hallel final. Hallel désignant un ensemble de psaumes qui sont encadrés par la racine de hallel. Ici, c'est sous la forme du substantif tehila, louange, et qui revient au verset 21, donc qui encadre bien. Le psaume. Donc il introduit le hallel final. C'est le seul psaume intitulé Louange, il est repris en tête du dernier verset, comme il dit, donc il encadre le psaume, il est dit de David. Il relève aussi des psaumes du règne de Dieu. Règne de Dieu en général, ce qui est une catégorie plus large qu'un psaume royal centré sur le roi terrestre, David. Ça, il y en a aussi. Et ici, c'est un psaume, au moment où il parle du règne de Dieu, c'est en général. Et c'est Dieu qui croit, pas simplement son mandataire terrestre. Il relève les psaumes du règne de Dieu et le verset 1 qui dit « Je t'exalterai, mon Dieu, mon roi ». Mais aussi, on va retrouver cela au cœur du psaume. Je l'ai mentionné au passage en verset 11, 12, 13, avec insistance. Il y a une triple mention, là, au verset 11 à 13 du règne. C'est le dernier des psaumes alphabétiques. Donc ce n'est pas le seul, hein, psautier. Je vous ai donné les numéros des psaumes alphabétiques, mais il n'y en a quand même pas des masses, il y en a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 parce que c'est quand même, ça suppose une technique, et c'est quand même se donner une contrainte formelle assez forte. Donc c'est le dernier psaume alphabétique, et il introduit la collection des 5 derniers psaumes, qui sont tous encadrés par Alléluia au début. Il y a un petit problème textuel, c'est qu'entre le verset 13 et 14, là, si je reprends la traduction, vous voyez, ton règne, un règne éternel, ton empire pour les âges des âges, c'est dans le texte hébraïque. Et puis, vous voyez qu'il y a quelque chose qui est ajouté avant le verset 14, le Seigneur est vrai en tout ce qu'il dit, fidèle en tout ce qu'il fait. C'est un verset qui devait être dans le texte hébraïque, parce qu'il manque précisément une lettre de l'alphabet à cet endroit-là. On saute une lettre de l'alphabet. Donc il devait y avoir un verset commençant par la lettre manquante. Et de fait, dans des versions anciennes, des traductions anciennes en grec, en latin, on trouve l'équivalent. Donc on peut, en quelque sorte, le reconstituer. Même si on n'a plus une erreur de copiste à propos de l'original, mais hébraïque, mais on le retrouve à partir des traductions. Et il dit, le Seigneur est vrai en tout ce qu'il dit, fidèle à tout ce qu'il fait. Et je vous disais, ça laisse ça apparaître un certain parallélisme avec le verset 17, le Seigneur est juste en toutes ses voies, et la même expression exactement, fidèle en tout ce qu'il fait. Le mot de locutoire du psaume et sa visée. Le psalmiste se situe en relation je, tu ou je, il, face à Dieu. On pourrait ajouter aussi parfois on par rapport au on, redira-t-il l'autre, pas seulement le jeu du psalmiste, mais les autres en général. Bon, pour le louer, le bénir, rendre grâce. Les trois racines que j'ai évoquées apparaissent dans le psaume. Et on lui rend grâce pour ses attributs, il y a quand même 18 qualificatifs de Dieu. Mais aussi pour son agir. Il y a des verbes qui disent ce qu'il fait. On va le reprendre en parcourant à partir de la traduction littérale. Son agir, donc ça, c'est l'attribut, et son agir divin, surtout royal, en faveur de ses fidèles, de ceux qui le craignent, de ceux qu'il aime, diverses manières de désigner les fidèles du Seigneur. Le psalmiste engage d'autres à bénir. Jusqu'à engager le fait que, à la fin, il dit toute chair, que toute chair le bénisse. C'est une manière de dire toute créature vivante. Alors, la structure, le mouvement du psaume. Vous voyez que la traduction, la disposition liturgique, le regroupe par strophe de 4 lignes, c'est-à-dire chaque fois 2 versets de 2 stiques, comme on dit. Et ce qui lie le premier stick et le deuxième, dans l'hébreu, c'est souvent une petite préposition « et » qu'on peut identifier dans l'hébreu. Si vous prenez une ligne, vous voyez que les mots, et puis il y a un petit blanc qui sépare les mots hébraïques, hein, les premiers, par exemple, après le titre, hein, la première ligne, vous avez 3 mots hébraïques, « Arumumah »,« Elohim »,« Amelech ». Et puis, il y a un petit blanc, et puis la suite du texte hébraïque. Et au début de la suite, si vous regardez de ligne à ligne, vous avez souvent la même lettre qui se présente comme ceci. C'est un vœu qui veut dire « et ». Je t'exalterai, mon Dieu, mon roi, littéralement, et je bénirai ton nom. Chaque jour, je te bénirai et je louerai ton nom, qui marque qu'on passe à la seconde partie du verset, qu'on appelle le second stick du verset. Alors, le psautier liturgique le dispose en 10 strophes de 4 sticks. Donc, après l'invitatoire, je t'exalterai, mon général, je bénirai ton nom toujours et jamais, et puis on commence. Première strophe, 2-3, deuxième strophe, 4-5, etc. Donc, la disposition de cette traduction opte pour des strophes de 4 sticks chaque fois. Ce que recouvre en partie la division, alors je vous invite à prendre la page suivante, où le psaume est présenté dans un tableau, là, le haut de la page suivante, psaume 145, mais dans un encadré. Donc la page, vous l'avez, que j'ai lue dans une colonne, mais la page, vous l'avez mis psaume 145 et on a un encadré avec une traduction plus littérale du psaume. C'est celle-là qu'on va considérer maintenant. Et là, on a une présentation qui le dispose, vous voyez, un certain lettrage. A, qui le divise. Dans ce cadre, vous avez à droite, la transcription phonétique du nom des lettres Aleph. Vous voyez à droite en colonne Aleph, Bet, Gimel, Dalet, ce sont les lettres de l'alphabet hébraïque. Alors vous voyez que après la ligne 13, où on a la lettre Mem, qui est le M en français, la Met Mem, et puis il est mis entre parenthèses Nun. C'est mis entre parenthèses parce que c'est le verset qui manquait dans depuis la suite. Donc les lettres de l'alphabet sont signifiées à droite du tableau. Et puis à gauche, on a ajouté un lettrage qui propose une certaine division. A, B, C, D au milieu, et puis C', B', A'. Donc des choses qui se répondent. Hein. A, A', B, B' en dessous, C', et au milieu, D. Alors on peut voir, ce n'est pas un absolu, mais certaines raisons de proposer cette vision du psaume. Qu'est-ce qui lie A et A', c'est-à-dire les versets 1-3 et le verset 21. Le vocabulaire du nom et de la bénédiction. On a une déclaration souhait de louange, bénédiction pour le nom divin. Vous voyez au verset 1-2. Je t'exalte, mon Dieu, mon roi, je bénis ton nom. Chaque jour, je te bénirai, je louerai ton nom. Et à la fin, le dernier stick de tout le psaume, que toute chair bénisse le nom de sa sainteté. Donc, l'importance accordée et encadrant le psaume au nom du Seigneur. En point d'orgue, le nom de sa sainteté pour toujours et à jamais. Et le verset 3. Grand est Yahvé, le Seigneur, et loué extrêmement, à sa grandeur, à la limite, commence à annoncer le motif, la raison de la louange bénédiction, la grandeur de Dieu. Donc on va le louer tel qu'en lui-même, dans sa grandeur d'aimer. Donc une inclusion donc, qui annonce, qui entre dans le vocabulaire de la louange de Dieu, et spécialement pour son nom, la grandeur de son nom. Puis en B, on dit et promet la diffusion et transmission de cette louange. Regardez, qu'un âge à un âge vante tes œuvres et tes vaillances, qu'on les annonce. Honneur, gloire, ta splendeur, les paroles de tes merveilles, je les redirai. La puissance de tes terreurs, qu'on la dise, et tes grandeurs, je la raconterai. Le souvenir de l'abondance de ta bonté, qu'on le transmette, et ta justice, qu'on l'acclame. Vous voyez tous les vers qui sont de l'ordre de la transmission, de la diffusion, hein, vanter, annoncer, redire, dire, raconter, transmettre, acclamer. Donc, c'est des versets centrés sur cette diffusion, transmission de la louange. Et on commence à énumérer les motifs à travers des substantifs. Tes œuvres, ta splendeur, tes terreurs aussi, tes grandeurs, ta bonté, ta justice, tes vaillances. Donc, c'est un tableau tiré du Père Habermacher, c'est qui a mis en petite capitale tous les substantifs qui disent les motifs de la louange, sous terme d'attribut de Dieu. Et puis on continue. Alors en C, C' prime, et B' prime, on voit apparaître le nom du Seigneur. En C, tendre et miséricordieux est le Seigneur, le tétragramme. Qu'on prononce, vous vous en souvenez, un juif qui rencontre, prononce Adonai. Adonai. Et notre traduction, le 38, soit le Père Habermacher met le tétragramme simplement, mais les traductions courantes disent souvent le Seigneur. Tendre et miséricordieux est le Seigneur, bon, il a la colère, grand en amour, bon est le Seigneur pour tous, sa miséricorde pour toutes ses œuvres, elle te rend grâce, il y avait toutes tes merveilles. On commence à voir aussi le mouvement d'intensité et de totalité à travers les tous, et qui vont courir jusqu'à la fin du psaume. Tous, il est bon pour tous, toutes ses œuvres, toutes tes œuvres, et ça va continuer, tout âge des âges, tous les siècles, etc. Vous pouvez rentrer, il y a 16 ou 17, tout ou tous. C'est toujours la même racine, le même mot en nous. Et donc, on entre dans une louange qui se veut totale, complète. Tous les motifs et en conviant tous les hommes à cette louange. Voilà. En contraste, lapidaire, au verset 20, on lira, hein, d'une part, le Seigneur garde tous ceux qu'il aime, on peut dire, mais tous les impies, il les détruira. Il y a toutes ses œuvres, tous les justes, tout le monde, etc. Mais il y a aussi, tous les impies, il les détruira. On commence à pointer un rappel de ce contraste entre les justes et les impies que dénonçait le psaume 1, déjà. Au milieu, en D, on se centre sur la célébration du règne de Dieu. La gloire de ton règne, etc. Ton règne, un règne pour les siècles. Ton gouvernement pour tout âge des âges. La célébration de son règne. Au verset 12, les mots « fils de l'homme » et « gloire et honneur » déjà au verset 5, hein, pour faire savoir au fils des hommes tes vaillances, la gloire, l'honneur de ton règne. Ce sont deux expressions qu'on avait rencontrées dans le psaume 8. Qu'est-ce que l'homme, qu'est-ce que le fils d'Adam, le fils de l'homme, qui t'a pris un souci, et tu l'as abaissé de peu par rapport à l'homme, mais tu l'as couronné de gloire et d'honneur. C'était le binôme, le psaume 8, le binôme qui intervient souvent pour la création, le binôme que le Nouveau Testament reprend pour l'appliquer à la résurrection du Christ, couronné de gloire et d'honneur. Donc ça, c'est des mots importants. Ça peut rappeler le psaume 8, et au verset 13, on a tout âge des âges qui relaie le toujours et à jamais qu'on trouve tout au début, c'est le premier verset, et tout à la fin, c'est le dernier verset, pour toujours et à jamais, en 4, donc cette totalité à échelle du temps cette fois-ci, au tout début, tout à la fin, et comme en relais pour les âges des âges, un peu au milieu, vers le verset 13. La portée juive et chrétienne, c'est un psaume qui est prié quotidiennement à la synagogue, le matin et l'après-midi, donc c'est important. Il est prié aux vigiles et fêtes, associé au Hallel. Comme dit le père Habermacher, le psalmiste poursuit sa louange, demande à l'humanité entière de prendre le relais. Quand Israël raconte la grandeur de Dieu, il engage toute l'humanité dans son récit. Et l'Église nous fait la même requête en nous proposant de prier ce psaume. Le mouvement du psaume poursuit l'incorporation de tout homme comme fidèle dans le royaume de Dieu. Les psaumes 15 et les versets 15 et 16 qui parlent de la manière dont Dieu nourrit son peuple. Les yeux vers tous, vers toi ils sont en attente et toi tu leur donnes la nourriture en son temps. Verset 16, tu ouvres la main, ta main, tu rassasies tout ce qui vit, tu le fais volontiers, avec plaisir. Eh bien, ces psaumes, ces versets, pardon, sont utilisés pour le bénédicité et les grâces du repas. Donc, à l'occasion du repas, on utilise ces versets de psaumes. Alors, une prière, encore voilà un peu, donc, un aperçu du psaume, de son mouvement de louange. Une prière en écho, je vous avais dit, le psautier de la Bible de Jérusalem propose souvent une prière finale qui ressaisit et qui applique en perspective chrétienne le psaume. C'est un texte de l'Ancien Testament, mais qui le relie dans la lumière du Nouveau Testament. Et donc, le psautier de la Bible de Jérusalem propose une prière adressée au Seigneur Jésus. C'est là. Procédé qui christologise la lecture du psaume. Seigneur Jésus, notre roi et notre Dieu. Donc, cette notion du règne, on la reconnaît dans la personne du Christ. Tu as révélé aux hommes les insondables richesses d'amour que le Père avait préparées pour nous depuis l'origine des temps. Agrée la louange et l'action de grâce de ton Église pour la vérité de la parole et la bonté de tes pardons. Donne-nous notre pain quotidien. Tu nourris chacun en son temps, tu rassasies. Donne-nous notre pain quotidien et aussi celui de la vie éternelle. Afin que toute chair, c'est l'expression là, du dernier verset, bénisse, le troisième cas, ton nom, c'était quand même ce par quoi commençait le psaume, par quoi finit, et la splendeur de ton règne. On termine la prière en insistant sur le règne. Oui, des échos au texte du psaume, mais avec souplesse, en le ressaisissant plutôt pour en faire une prière adressée au Christ, notre roi, et considérer son règne à lui. Voilà pour le psaume 146. Le psaume 146, je le lis, vous avez le texte sur le bas de la même page, je le lis d'abord. Alléluia, on commence. Et, oui, la version a oublié de. Au bas de la page, d'ajouter le, il y a aussi un Alléluia tout à l'heure, tout dans le fond. Après le verset 10. Donc, Alléluia. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Je veux louer le Seigneur tant que je vis, chanter mes hymnes pour mon Dieu tant que je dure. Ne comptez pas sur les puissants des fils d'hommes qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va, ils retournent à la terre, et ce jour-là périssent leurs projets. Au contraire, heureux. Qui s'appuie sur le Dieu de Jacob, qui met son espoir dans le Seigneur son Dieu. Lui qui a fait le ciel et la terre, et la mer et tout ce qu'il renferme. Il garde à jamais sa fidélité, il fait justice aux opprimés, aux affamés il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés, le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, le Seigneur redresse les accablés, le Seigneur aime les justes, le Seigneur protège l'étranger. Il soutient la veuve et l'orphelin, mais il égare les pas du méchant. C'est l'impie, littéralement, le méchant. D'âge en âge, le Seigneur régnera, ton Dieu, au Sion, pour toujours. Alléluia. Il est donc encadré par deux Alléluia aux extrêmes. Le premier est immédiatement relayé en auto-invitatoire, puisque Alléluia, ça veut dire chanter, louer Dieu. Et le verset suivant dit directement « Alleli nafshi » c'est un impératif « loue » de la même racine « mon âme » le Seigneur « Alala » que je le chante, que je le loue. Autrement dit, dans la traduction française, ce qui est traduit par « chante » ou « mon âme » et « chanter mes hymnes » c'est exactement la même racine que dans l'Alléluia. Je veux soulever le Seigneur. Donc, on commence par un Alléluia, relayé immédiatement par loup et que je. Les versets 3-4 détournent des puissants incapables de sauver et éphémères. Ne comptez pas sur les puissants, les fils d'hommes qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va et retourne dans la terre. Ce jour-là périssent leurs projets. Donc le caractère éphémère de la grandeur de certains puissants humains. Ne comptez pas sur eux. Au contraire, appuyez-vous et soyez heureux, c'est une béatitude, heureux qui s'appuie sur le Dieu de Jacob. Sur le Seigneur, Dieu de Jacob. Avec la dernière béatitude du psautier. La première, c'était le premier mot du psautier. Hein, vous savez, Asherei ha'ish, heureux l'homme qui, etc. C'est heureux qui s'appuie sur le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël, autrement dit. Le Dieu créateur en même temps. Les versets 6b à 9b déclinent alors la fiabilité de Dieu. Donc, le verset 6a disait sa grandeur comme créateur, lui qui a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qu'il renferme. Et puis, je dirais, ses attributs dans sa relation aux hommes. Il garde à jamais sa fidélité, une justice aux opprimés, aux affamés, etc. Et en privilégiant la catégorie des petits, des faibles, hein, voyez, opprimés, affamés, enchaînés, aveugles, accablés. Et puis les catégories classiques de l'étranger, la veuve et l'orphelin. Eh bien, tout cela, le Seigneur leur vient en aide. Et par contre, à la fin, en un cycle, il égare les pas du méchant. Le fameux impie, comme il était dit au psaume 1, mais le chemin de l'impie, le méchant, il se perd. Il égare les pas du méchant. Alors qu'au contraire, tous les petits qui lui font confiance ont sa sollicitude. Le verset 10 ouvre le psaume alors sur une note de psaume du règne de Dieu, et spécialement pour Israël, puisqu'il est question de « ton Dieu au Sion ». Le Seigneur règnera, hein, règnera non seulement comme Seigneur créateur, mais règnera aussi comme Dieu d'Israël, hein, Sion désignant bien sûr Jérusalem, David, c'est une manière de désigner le peuple. D'Ajana, le Seigneur règnera, ton Dieu au Sion pour toujours. Voilà ce psaume. Je passe au psaume 147. J'avance. Hein. Je vous invite à en avoir le texte sous les yeux. Vous voyez le psaume 147, entre parenthèses, 146, 147, puisque cette question de décalage, de division d'un psaume en deux. Et d'ailleurs, certains ont pu considérer que à partir du verset 12, on a un autre psaume. C'est là qu'on en a fait la séparation. Et du reste, c'est vrai que l'ensemble, donc, de 12 à 20, fait l'objet dans l'office que l'on prie d'un psaume particulier. Il commence par glorifier le Seigneur Jérusalem, célèbre ton Dieu aussi. Donc ceci pour expliquer pourquoi, à côté du chiffre 147, vous avez entre parenthèses deux chiffres, 146, 147. Je le lis d'abord, comme toujours, Alléluia, il est bon de fêter notre Dieu, il est beau de chanter sa louange. C'est l'invitatoire. Le Seigneur rebâtit Jérusalem, il rassemble les déportés d'Israël, il guérit les cœurs brisés et soigne leurs blessures. Il compte le nombre des étoiles, il donne à chacune son nom. Il est grand, il est fort, notre maître, nul n'a mesuré son intelligence. Le Seigneur élève les hommes et rabaisse jusqu'à terre les impies. Entonnez pour le Seigneur l'action de grâce, jouez pour notre Dieu sur la cithare. Il couvre le ciel de nuages, il prépare la pluie pour la terre. Il fait germer l'herbe sur les montagnes et les plantes pour l'usage des hommes. Il donne leur pâture aux troupeaux, aux petits du corbeau qui la réclame. La force des chevaux n'est pas ce qu'il aime, ni la vigueur des guerriers ce qui lui plaît. Mais le Seigneur se plaît avec ceux qui le craignent, avec ceux qui espèrent son amour. Glorifie le Seigneur Jérusalem, célèbre ton Dieu aussi. Il a consolidé les barres de tes portes, dans tes murs il a béni tes enfants. Il fait régner la paix à ses frontières, d'un pain de froment te rassasie. Il envoie sa parole sur la terre, rapide son verbe la parcourt. Il étale une toison de neige, il sème une poussière de givre, il jette un poignet des glaçons devant ce froid qui pourrait tenir, il envoie sa parole sur bien le dégel, il répand son souffle, les eaux coulent. Il révèle sa parole à Jacob, ses volontés et ses lois à Israël. Pas un peuple qu'il ait ainsi traité, nul autre n'a connu ses volontés. Alléluia. Alors vous sentez qu'il y a des passages de type divers. Il y a certains passages qui sont, ils sont mis un peu en retrait. Il y en a trois là. Il est bon de fêter notre Dieu. Et puis au verset 12, glorifie le Seigneur Jérusalem. Et avant ça, pardon, je vais couper au verset 7. Donc au verset 1, au verset 7, au verset 12, c'est un peu en retrait. Pourquoi ? Parce que c'est chaque fois un invitatoire, hein, c'est-à-dire qui engage à la louange. Il est bon de fêter, il est bon de chanter. Puis au verset 7, entonnez pour le Seigneur. Et puis au verset 12, plus spécialement adressé à Jérusalem, à Israël, glorifie, célèbre ton Dieu. Donc ça, c'est chaque fois des refrains, en quelque sorte, d'invitatoire. Et puis entre cela, on donne les motifs de la louange à laquelle on invite. Et certains touchent l'histoire du peuple. Le Seigneur rebâtit Jérusalem, il rassemble les déportés d'Israël. Le verset 2-3, il guérit les cœurs brisés, soigne leurs blessures. Certains ont pensé à un contexte de retour d'exil. Il rebâtit Jérusalem, il rassemble les déportés d'Israël. Donc, en tout cas, il a sans doute été utilisé en contexte de retour post-exilique. L'histoire est touchée aussi au verset 13. À propos de Sion, il a consolidé les barres de tes portes, dans tes murs il a béni tes enfants, fait régner la paix à tes frontières, d'un pain de froment te rassasie, ce que Dieu fait pour son peuple dans son histoire. Et enfin, les quatre derniers versets, il révèle sa parole à Jacob, ses volontés, ses lois à Israël, pas un peuple qui l'est ainsi traité, nul n'a a connu ses volontés. Donc, l'agir de Dieu, pour lequel on le loue, en faveur de son peuple au fil de l'histoire. Et puis, il y a aussi des passages où le motif de la louange est différent. C'est la louange au Dieu créateur qui est mérite. Verset 4, il compte le nom des étoiles, il donne à chacune un nom, il est grand, il est fort, notre maître, nul n'a mesuré son intelligence, l'intelligence créatrice de Dieu. Au verset 8, il couvre le ciel de nuages, il prépare la pluie pour la terre, il fait germer l'herbe sur les montagnes, les plantes pour l'usage des hommes. Il donne leur pâture au troupeau, au petit du corbeau qui la réclame. Vous voyez bien que un peu tout y passe. La météorologie, il couvre le ciel de nuages, et la pluie pour la terre, donc en haut, en bas, et puis les végétaux, il fait germer l'herbe sur les montagnes et les plantes, et ça pour en faveur des hommes. Et puis le monde animal, il donne aussi leur pâture au troupeau, le petit du corbeau qui la réclame. Donc l'œuvre créatrice de Dieu est son œuvre nourricière pour les hommes, pour les troupeaux, pour les animaux. Encore au verset 15 à 18, il envoie sa parole sur la terre, rapide son verbe, la parcourt, on peut penser au verbe créateur, hein, mais aussi il étale une toison de neige, une poussière de givre, il fait appanner les glaçons, survient le dégel, il répand son souffle, les eaux coulent. Là, c'est la météo et la neige, le givre, les glaçons, hein, mais le froid, on pourrait dire que ça ne convient pas trop à cette saison, mais il envoie sa parole, survient le dégel, il répand son souffle et les eaux coulent. Motif. Donc on loue Dieu pour son action dans l'histoire, on loue Dieu pour son œuvre créatrice, et puis il y a encore deux petits passages d'un genre différent qui considèrent Dieu qui prête attention aux petits. On a vu dans le psaume précédent les affamés, les orphelins, les pauvres, les veuves, etc., les souffrants. Ici, c'est au verset 6. Le Seigneur élève les humbles, il rabaisse jusqu'à terre les impies. Hein, l'esprit du Magnificat aussi. Ou bien dans l'Évangile, qui s'abaisse sera élevé. Hein? Et dans le même sens, mais plus imagé, au verset 10-11, la force des chevaux n'est pas ce qu'il aime, mais la vigueur des guerriers, ce qui lui plaît. Mais le Seigneur se plaît avec ceux qui le craignent, avec ceux qui espèrent son amour, de nouveau, la préférence du Seigneur pour les petits plutôt que pour les puissants. L'esprit du Magnificat. Voilà pour ce psaume. Donc ce que je viens de dire, je l'ai dit un peu comme ça directement, mais vous l'avez exprimé sur la page 22, c'était dans la page sous silencieux, je la retends. Voilà. Oui, j'ai dit l'essentiel de ce qu'il y avait sur cette feuille de résine. Le psaume 148, on termine par là, et je ne vais pas trop déborder le temps, même si après cette longue absence, on a envie d'être un peu plus long, mais voilà. On va prendre le psaume 148. Vous en avez le texte sous les yeux. Et le commentaire, il est sur la page 22. Je lis le psaume qui est bref. On ne va pas faire pas trop long. Alléluia. Et Alléluia à la fin. Alléluia. Louez le Seigneur du haut des cieux, louez-le dans les hauteurs. Vous tous ses anges, louez-le, louez-le tous les univers. Louez-le soleil et lune, louez-le tous les astres de lumière. Louez-le, vous, cieux des cieux et les eaux des hauteurs des cieux. Qu'il loue le nom du Seigneur, sous son ordre il fut créé. C'est lui qui les posa pour toujours, sous une loi qui ne passera pas. On comprend ici la loi du fonctionnement de la création. Ce n'est pas directement la loi de Moïse. C'est un sens encore plus généralisé. Louez le Seigneur depuis la terre, monstres marins, tous les abîmes, feu et grêle, neige et brouillard, vent d'ouragan qui accomplit sa parole. Les montagnes et toutes les collines, les arbres des vergers et tous les cèdres, les bêtes sauvages et tous les troupeaux, le reptile et l'oiseau qui volent. À nouveau, c'est tout l'univers qui est convoqué. Hein. La terre, les abîmes, tout le feu, la neige, toutes les réalités, les montagnes, les collines, toute la végétation, tout le règne animal aussi. Et enfin, bien sûr, les humains, les rois de la terre et tous les peuples, les princes et tous les juges de la terre, tous les jeunes gens et jeunes filles, les vieillards comme les enfants. Qu'il loue le nom du Seigneur, le seul au-dessus de tout nom, sur le ciel et sur la terre sa splendeur, il accroît la vigueur de son peuple. Puis l'extension finale, louange de tous ses fidèles, des fils d'Israël, le peuple de ses proches. Alléluia. Les deux passages notés comme refrain, voyez, engagent la louange du nom du Seigneur. Hein. Qu'il loue le nom du Seigneur, ce son nom fut créé. De même, qu'il loue le nom du Seigneur, le seul au-dessus de tout. Qui est invité à louer? Les êtres au plus haut et au plus bas de la terre, de tout l'univers. Louez le Seigneur du haut des cieux, louez-le dans la hauteur, tous ses anges, tous les univers, donc les êtres célestes qui peuplent en haut, et puis les astres, soleil et lune, les astres de lumière, les cieux des cieux. Et puis, plus tard dans le psaume, seront conviés à la louange toutes les réalités terrestres. Louez le Seigneur. Donc, au départ, c'était du haut des cieux, dans les hauteurs. Et puis, à partir du verset 7, on passe louer le Seigneur depuis la terre, monstre marin, tous les abîmes, on démarre d'en bas. Hein? On était dans les plus hauts des cieux avec les anges, et puis, voire Dieu au plus haut des cieux. Et puis, on redémarre des monstres marins, etc. Et puis, on considère tout l'univers. Alors, le motif de la louange, bien sûr, c'est. On sent bien la grandeur de l'œuvre créée de Dieu, mais au passage est mentionnée la préférence de Dieu, en tout cas sa sollicitude pour son peuple. Il accroît la vigueur de son peuple, loin de tous ses fidèles, les fils d'Israël, son peuple, 13-14, les siens, et aussi c'est au-delà de son peuple, tous les rois de la terre et tous les peuples. Les princes et tous les juges de la terre, au verset 11, qui sont invités à entrer dans cette loi. Et puis avec des extrêmes, tous les jeunes gens et les jeunes filles, donc la complémentarité homme-femme, les vieillards comme les enfants, les personnes âgées comme les plus jeunes, on va tous invités à louer le Seigneur. Dernière remarque, et je termine par là, voyez au passage des rois de la terre, tous les peuples, les princes et les juges de la terre. Ça, c'était une catégorie du psaume 2, quand même. Qu'est-ce que ces murmures des peuples, des rois de la terre, les juges de la terre, les princes de la terre qui s'insurgent contre le Seigneur et son Messie? Et à la fin du psautier, on voit que ceux qui s'insurgeaient contre le Seigneur et son Messie sont invités à entrer dans la louange du Seigneur. De même qu'au passage, vous l'aurez noté, j'ai fait comme deux, trois fois allusion au psaume 1, le contraste entre les justes et les impies. Mais dans le psaume, il est quand même question, on a vu dans trois des psaumes qu'on a vu, que même si c'est annoncé brièvement, le jugement des impies, voilà, c'est une idée qui est reprise aussi. Hein, ça nous prépare à considérer certains liens, sans forcer les choses, certains contrastes qu'on peut voir entre le début du psautier et sa finale. Il y a quand même des choses qui sont, je dirais, qui peuvent être mises en relation. Voilà, lisez chez vous le psaume 149, 150, mais j'en dirai un mot en renouant au prochain coup. Et dans le dernier psaume, le psaume 150, là, j'avais tous les instruments. D'ailleurs, il y a une mise en musique du psaume 150 où Joseph Gélinot, dans son harmonisation, a fait intervenir le fait de cymbales, des harpes, des tambours, et il les fait entrer en scène musicale au moment où il en est question dans le psaume. J'essaierai de retrouver la cassette ou le CD de vous le faire entendre la fois prochaine. Voilà. Bonne soirée.